l'actualité, philosophie, et je t'emmerde.
Bergerus 1222. L'Amérique, le terrorisme et Nietzsche. Alors j'étais tout content, j'avais lu Aurore de Nietzsche, je l'avais jamais vraiment lu, je l'avais que survolé, et j'ai trouvé des trucs super dedans, donc on en parlera demain je pense. Mais donc j'étais prêt à faire une émission là-dessus, sur Aurore, son ouvrage, son essai à Nietzsche, et je feuillette le journal, le Monde du lundi 24 mars 2025, car nous sommes aujourd'hui le lundi 24 mars 2025, je l'ai acheté hier, dans une gare, oui, on s'en fout, et donc je regarde. Alors on va y aller ensemble, et en même temps j'ai acheté l'Express. Et l'Express disait « Le vrai mage du Kremlin parle. Entretien avec Vladislav Surkov, l'homme qui a fabriqué Poutine. » Alors ça, c'est des trucs de vente, hein, l'homme qui a fabriqué Poutine. On va voir ça tout de suite. Donc on va d'abord commencer par Le Monde. Le Monde. Alors, Le Monde. Bon, il parle de l'Iran. Là-bas, c'est pas bon du tout, ce qui se passe. Et il y a un petit article, à un moment, à la page 5... La Chine exécute 4 Canadiens pour des délits liés à la drogue. Et tu prends le dernier paragraphe. Et là, la France compte elle aussi un ressortissant condamné à mort en Chine pour une affaire de drogue. Et alors pourquoi ? Alors il s'appelle Shan Tao Fumi. A été arrêté en 2005, puis condamné en 2010 par un tribunal de Canton pour fabrication, transport, contrebande et trafic de méthamphétamine. Si vous avez vu Breaking Bad, vous savez ce que c'est. La politique, criminelle, les lois en Chine, ils savaient ce que c'était, forcément. Ils se font tuer. Il ne faut pas tuer des gens. Mais c'est jouer avec le feu, quand même. Tu vas dans un pays pour faire du trafic de drogue et tu sais que si on t'arrête, on te tue. Bon. Ouais. Bon, moi, je trouve ça. Ouais, les mecs, ils ont un article. Parce qu'il faut les aider, tout ça. On va les aider. Oui, il faut les aider, mais bon, n'empêche qu'au fond, c'est eux-mêmes, quoi. Eux. Nous, ce qu'on fait, c'est autre chose. C'est peut-être pour nous donner bonne conscience. J'en sais rien, mais. Ou parce qu'il faut le faire aussi, tout bêtement. Mais eux-mêmes. Tu vois, ils vont, Ils savaient qu'ils ont fait une erreur. Donc, mais est-ce que si on les sauve, généralement, bah, ça t'empêche pas de recommencer, quoi. Enfin, c'est l'histoire du monde aussi, hein, du journal, oui, mais aussi de. Ça a toujours été comme ça. Ensuite, page 10, Mehdi Nemmouche, condamné à la perpétuité. Alors, c'était un terroriste, et alors je cite Mehdi Nemmouche, l'accusé, oui, j'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais, je ne regrette pas un seul acte. Et c'est là, en fait, qu'il bon, est écrit en sous-titre Mauvaise foi, parce qu'il y a un discours, bon, un discours intelligent, anti-américain, plus généralement anti-occidental. La morale, c'est l'arme des puissants, c'est une question de convention. A-t-il commencé, avant de citer le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, il n'y a pas de phénomène moraux, rien qu'une interprétation morale de phénomène. Et là, je me suis dit, tu vois, et ça, c'est pas la première fois que je vois ça. Bon, là, c'est un rapport au terrorisme, donc c'est pas la meilleure chose, mais je vois pas toujours ça avec le terrorisme. Nietzsche, il est. Des fois, il est dit, ouais, c'est lui qui a inventé le nazisme, tout. Ceux qui n'ont pas du tout, mais qui n'ont rien, aucun rapport, quoi. Et là, des personnes, comme bah, la presse souvent, se permettent, enfin, ceux qui emploient Nietzsche comme ça, permettent de décontextualiser sa philosophie à leur avantage. Tu vois? Bah non. Non, tu peux pas faire ça. C'est un philosophe, Nietzsche. C'est pas un. C'est un. En plus, ultra positif, quoi. Il était là pour aider, à l'instar de Schopenhauer, par exemple. C'est à tomber des nues, quoi. Alors, oui, les gens, ils connaissent pas Nietzsche. Donc, Nietzsche, il a fait ça. Nietzsche, je connais pas, mais il est méchant. Bon, bah, Nietzsche est méchant. Hop. Bon. Moi, je vous dis que c'est tout le contraire. L'interprétation est un phénomène et propre à chacun. Ça, c'est moi qui le dis. Tu vois, il dit l'interprétation. Il n'y a pas de phénomène moraux, juste une interprétation morale des phénomènes, dit Nietzsche. Et lui, l'accusé, reprend ça pour se sortir de là, pour se défendre. Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas de phénomène moraux, rien qu'une interprétation morale des phénomènes. Ça va pas venir. La bombe que tu as fait exploser ou le mec que tu as assassiné, ça va pas venir te sauver, quoi. Bah, non, parce que il faut savoir que Nietzsche était, comme j'ai dit dans mes émissions passées, bah je voulais le dire, c'est avec l'Aurore. C'est un croyant. C'est pas un religieux, non. C'est pas un pratiquant, non. C'est un croyant. Il y croit en quelque chose. C'est ça, Friedrich Nietzsche. C'est ça, la philosophie. C'est pas du nihilisme, la philosophie. Pas du tout. Et donc là, bah, j'ai écrit aussi. Ça va aussi contre le professeur Schmidli. Ne surtout pas écouter ceux qui parlent de Nietzsche. Enfin, ceux qui parlent de Nietzsche, non, c'est plutôt ceux qui empruntent Nietzsche. Bon, bref. Voilà donc là pour cet article. Et là, plus loin, page 16, géopolitique, Royaume-Uni, la relation spéciale à l'épreuve de Trump. Parce qu'apparemment, bon, pas apparemment, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et l'Angleterre étaient ensemble, quoi. Ils étaient très, très liés. Et avec Trump, apparemment, bah, ça l'est moins. C'est moins clair, quoi. Et Donald Trump, alors là, qui a l'air de penser sincèrement que Poutine n'est pas l'agresseur dans la guerre en Ukraine. Ben non, parce que c'est lui. C'est lui l'agresseur. Bah, peut-être pas forcément de l'Ukraine, mais tu sais, enfin, c'est moi qui dis ça, j'en sais rien. Mais Poutine, c'est l'agresseur, oui. Mais tout le monde est agresseur. Si tu reprends ce que disait Mehdi, il disait, en fait, non, mais c'est juste en soi. Mais il y a des façons de faire, quoi. Eux, ils y vont. C'est très. extrêmes, quoi. Ils ont des extrêmes qui sont différents. Parce que là, ils vont répondre par la violence, comme Mehdi, le terroriste, il va répondre par la violence. La Russie va répondre par la violence. Mais quoique, pas tant que ça. Mais les plus violents, c'est la violence qu'accuse l'Occident, l'occidentalisation, les États-Unis d'Amérique. Trump, en l'occurrence. Et Elon Musk, c'est par derrière. C'est de l'illibéralisme, comme j'ai dit. On vous fait croire que vous pouvez vivre sans nous, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus riches, vous êtes super. Et en fait, non. Tu dis un petit truc, j'appuie sur le bouton et paf, tu passes à la balayette. C'est ça. Donc là, il n'y a pas de victorieux et de perdants. C'est pareil. C'est la même chose. Et nous, il y a l'Europe. L'Europe, c'est les plus forts. Hein. Ah, ça! Bah ben ouais, parce qu'on n'a pas de fric. Non, j'en sais rien. C'est juste l'histoire de rigoler, je dis ça.
Thank you.
On a pu écouter Théophobia par Almé Faraka du label Circum Disc. Là, on va revenir à Vladislav Surkov, un article qui est sur l'Express. Le Kremlin parle. Celui qui aurait fait Poutine, même si ça c'est de la connaissance, enfin, je pense pas que c'est vrai. Il raconte des trucs. Bon, je trouve pas que ce soit non plus très très intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais c'est pas très important pour le schmilblick, quoi. Il fait des trucs. Il y a des trucs très très fascistes quand il répond. Cette interprétation, attends. Je ne vois pas dans ma réponse précédente, donc je ne vais pas vous le dire, hein, je vais vous expliquer. Je ne vois pas dans ma réponse précédente l'ombre d'une négation de la subjectivité des peuples. C'est l'Europe qui a ignoré la subjectivité du peuple ukrainien en soutenant deux coups d'État à Kiev. Donc là, est caché une espèce de fascisme. Le mec, il est sûr de son truc. Il va être ouvert à aucun autre système. L'expansion permanente de la Russie, du communisme russe, ça c'est depuis Lénine. C'était un jour le monde entier sera communiste, donc il est resté là-dedans. Surkov et Poutine en soi, et le gouvernement russe, Staline, tout ça, ils étaient là-dedans. Il écrit la condition existentielle de notre existence historique, le monde sera russe. Voilà, écrit-il. Et donc après, il dit ce que je viens de vous dire, c'est l'Europe qui a ignoré la subjectivité du peuple ukrainien en soutenant deux coups d'État à Kiev. Donc d'une part, il veut assommer, enfin, écoutez bien mes mots, faut relativiser, il veut assommer le monde à coups de communisme, et ensuite, c'est notre faute si on ne veut pas être communiste. Là, c'est pareil, je caricature énormément. Mais bon, c'est histoire qu'on comprenne un peu ce que je veux dire et où aussi ce que dit Surkov, à mes yeux. D'accord ? L'Occident essaie de soumettre l'Ukraine de force sans que l'on comprenne bien pourquoi. Alors là, sans que l'on comprenne bien pourquoi. Généralement, quand on dit ce genre de phrase, quoi, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, on sait que c'est déjà qui sait exactement. Pourquoi, et là, dans le cas présent, signifie qu'il connaît déjà son erreur de vouloir imposer son idée, ses idées. Il rejette la faute sur l'autre. Nous sommes des peuples du même sang avec l'Ukraine. La coopération pacifique a été empêchée par deux coups d'État soutenus par l'Occident en Ukraine en 2005 et 2014. Les Ukrainiens ont été illégalement soumis au pouvoir d'une minorité agressive. Et ça, c'est vrai, par contre, enfin... je me rappelle, j'avais vu un truc lors de l'attaque de Poutine en 2022. Il y avait des Ukrainiens qui étaient contents, en fait, de retrouver la Russie. Et d'autres, moins. Et apparemment, selon ce qu'il dit, c'est une minorité qui... Zelenskyienne, tu vois, par exemple, qui voudrait... Tiens, un extraterrestre. Qui voudrait la liberté de l'Ukraine, l'UE a été fondée en 92, immédiatement après l'effondrement de l'URSS, votre union a été construite sur les ruines de la nôtre. Oui, l'Union européenne a commencé à élargir de façon effrénée, je dirais même plus imprudente. Elle a pris des kilos superflus, elle a privilégié la quantité à la qualité. Le résultat est une structure de gouvernance obèse, trop collégiale, qui ne produit plus que des demi-mesures. Ah oui. Ça, c'est peut-être pas totalement faux. L'Europe a tellement grossir que... après, quantité, qualité, je ne sais pas si on peut utiliser ces mots-là. Mais je pense quand même, au fond, que cette géopolitique, elle est... Je vous disais, mais ce n'est pas moi qui l'avais vu, hein, que apparemment certains... Poutine aurait... voulu la guerre en Ukraine, s'emparer du territoire ukrainien. Non seulement parce que c'était, comme il dit, l'Ukraine et la Russie, c'est un peu la même chose, bon, ok, historiquement, mais aussi parce qu'il y avait, il voulait rentrer dans l'Union européenne, et là, on aurait pu mettre des missiles dirigés en direction de l'URSS, de la Russie, pardon. Et là, Poutine s'est dit, non, pas de ça chez nous, moi j'attaque, je veux pas de missiles chez moi, sur ma tête. Et donc là, c'est là, je vous dis, quand Trump dit, mais je ne sais pas si c'est Poutine qui a voulu vraiment l'Ukraine. Non, parce que ça se trouve, c'est toi aussi qui a voulu l'Ukraine, qui aurait été prêt à accepter l'Ukraine dans l'OTAN afin que tu puisses mettre des missiles, afin que tu puisses t'emparer des terres sans, ça, mine de rien, quoi. On n'en aurait peut-être même jamais compris. Nous, Européens, aussi bêtes que nous sommes, on n'aurait jamais vu. On n'aurait jamais. Mais même les Américains, quoi. Ça aurait été juste un truc de pognon, quoi. On a les terres, hein, c'est bon, maintenant on a les terres en Ukraine. Et en fait, c'est ce qui. Après 1 million de morts, bah, c'est ce qu'il va finir par avoir, peut-être. Pour que la guerre cesse. Parce que la guerre, elle va bientôt finir. Hein. Oh, bon, ouais. Ouais, et puis. Mais en dessous cette fin de guerre, c'est. Il y aura autre chose qui se fera. On ne peut pas rester à rien faire. Quand on se fait chier, il faut trouver quelque chose à faire. Ouais. Et il dit aussi, Zourkov, quelle liberté, alors, quelle liberté peut exister sans liberté politique? Comme question lui est posée. Alors, pour moi, Surkov, la liberté n'a absolument rien de politique. Pour moi, un réalisateur qui, dans une démocratie libérale, n'ose pas faire jouer un immense acteur parce qu'il a été annulé à cause de dénonciations calomnieuses, c'est un esclave. Ça, je suis d'accord. Pour moi, un homme blanc qui se met à genoux devant un noir parce que autrefois un blanc a fait du mal à un noir, c'est un esclave. C'est juste aussi, parce que c'est pas notre faute. Enfin, c'est pas vous, je sais pas, mais c'est pas moi, c'est pas. Bref, ceux qui, tous ceux, moi, vous avez compris? Ceux qui ont fait mal au peuple, à un peuple quelconque, il n'a pas ensuite à s'agenouiller devant le peuple qu'il a. Enfin, tu vois, c'est.
Ah non, je crois que c'est le nom du groupe.
Ah oui, t'as peut-être raison.
Voilà, on est esclave, mais on reste quand même esclave, mine de rien. Ouais. Et après, c'est un article sur l'utopiste Raphaël Glucksmann. Alors, utopiste selon plan, ai-je à noter. Parce que bon, il dit plein de trucs. Ouais, bah, par exemple, la dynamique intérieure du poutinisme, ça a toujours été la confrontation avec l'Occident. Oui, ça, ok. L'homme qui aime trop son confort ne tient pas à voir ce qui vient le perturber. C'est juste aussi ça, par contre, l'Occident. Occidental. Bah ouais, tant que t'es bien dans tes baskets et dans ta maison, tu veux pas qu'on t'emmerde, quoi. Et ensuite, c'est là. Là où je pense que les Russes se trompent, c'est que nos démocraties sont plus fortes qu'elles n'y paraissent. Mais il n'en sait rien. Et personne n'en sait rien. C'est ça, en fait, aussi, à mes yeux. Bon. Les Américains ont montré que le point faible, c'était Washington et pas le front ukrainien. Pour Poutine, Surkov et les autres, nos sociétés sont devenues des sociétés de poissons rouges, des zappeurs incapables de se focaliser plus de 3 semaines sur le même sujet. L'Europe a les moyens de résister à condition qu'on soit capable de hiérarchiser à nouveau les priorités, de l'accepter. Le rapport de force, c'est en projetant enfin de la force qu'on aura la paix. Des changements profonds sont possibles, etc. Bah, après, c'est des trucs de politiciens, quoi. Selon vous, quelles doivent être nos lignes rouges dans les négociations de l'Ukraine? Les États-Unis ont non seulement lâché Zelensky, mais sont aussi en train de faire écho à la stratégie russe de changement de régime à Kiev. Notre rôle est de remettre l'Ukraine en position de force. Ouais. Voilà. Bon, en gros, nous, en Europe. Nous, quand je dis nous, c'est en Europe, on n'a pas de fric. On n'a pas de fric, on n'a pas beaucoup de ressources militaires. Tout ça, c'est les États-Unis qui l'ont et l'Europe et la Russie. Alors, bah, il faut, bah, c'est sûr, il faut. Mais tous les politiciens, depuis Advenam aeternam, c'est ce qu'ils disent, il faut, mais ils font pas. Donc, mais concernant tout, hein. Pas que l'armée, et pas que tout l'administration, tout, il faut, mais on fait pas, quoi. Après, c'est facile pour moi de dire ça, hein. C'est clair. Alors, on a écouté un extrait de Green Desert de Tangerine Dream de 1985. Parce que Green Desert, parce que on va parler de Pompidou maintenant. C'est toujours un article qui est dans l'Express, l'Express de la semaine du 20 au 26 mars 2025. Georges Pompidou déclarait à Richard Nixon, j'en suis sûr, les États-Unis ne voudront graduellement plus prendre en charge tout le poids de la défense en Europe. Alors, je le rappelle, Pompidou, c'est celui qui a succédé à Charles de Gaulle et qui est mort de maladie, qui n'a pas pu finir son mandat. Et comme il disait à la suite de Gaulle disait la même chose, hein, les États-Unis voudront graduellement plus, ne voudront plus prendre en charge l'Europe, quoi. Il faut qu'on arrive à se débrouiller. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Donc, c'est un, il savait. Georges Pompidou a été prescient. Et donc il sentait le coup venir, il avait de l'avance sur l'évolution géopolitique des États-Unis, mais il n'avait chez lui nul anti-américanisme. Il a compris nombre d'enjeux actuels, notamment l'importance de la construction d'une Europe sur le plan de défense, mais il n'en a rien été, parce que ce n'était pas le seul Pompidou en Europe. À l'époque, ils n'étaient que six, il y avait France, France en tout cas. Bon, ben, je sais pas, l'Angleterre apparemment, ben non, mais je trouve pas bizarre, je pensais qu'elle y était. Bon bref, nous ne sommes pas résignés à devenir dépendants, écrit-il Pompidou. Ensuite, les héritiers du gaullisme se déchirent sur la position à adopter par rapport à la Russie de Vladimir Poutine. Pompidou défendait un dialogue privilégié avec Moscou, mais n'avait aucune complaisance par rapport à l'Union soviétique. De Gaulle, comme Pompidou, défendait une équidistance entre Washington et Moscou. Les deux ont toujours été clairs à ce sujet, ne doutant jamais du camp auquel ils appartenaient. Lors d'un avion américain abattu en territoire russe en 1960 ou la crise des missiles de Cuba en 1962, la France a toujours dit qu'elle était du côté des États-Unis. Pompidou voulait construire l'indépendance de l'Europe. Sur le fait que les États-Unis sont nos alliés, nous faisons partie de l'Alliance Atlantique, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un dialogue fort avec Moscou. Du fait de la géographie, il faut coexister avec la Russie. Surtout que les Russes, c'est aussi eux qui nous ont libérés en 1945, 1944-1945. Il n'y aurait pas eu le front russe, ça n'aurait pas été pareil. Hein. Bah non. Les Russes nous ont beaucoup, beaucoup aidés aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Ça, on l'oublie. Ils ont une façon différente de se comporter comme libérateurs. Mais donc, ensuite, plus loin. Entendait donc avoir un dialogue constant avec l'ours russe qui reste dangereux malgré sa déliquescence. Néanmoins, sur le long terme, il savait que l'Occident menait sa politique de dialogue de manière intelligente mais sans concession, le régime s'écroulerait. Pompidou craignait qu'une normalisation trop poussée des relations avec l'Union soviétique n'entraîne une vassalisation de l'Allemagne de l'Ouest par rapport à Moscou. Là encore, cela reste d'actualité. Parce que ceux qui sont avec le mur là, qu'il avait dressé, Staline, entre Berlin notamment, toute l'Allemagne de l'Est, je ne sais pas pourquoi il dit Ouest, elle est vachement russe, quoi. Enfin, communiste. Encore, moins forcément, bien sûr, le temps passe, hein, mais... On connaît la formule de Valéry Giscard d'Estaing qui a qualifié la France de grande puissance moyenne, mais Pompidou, pour le centenaire de Sciences Po en 72, avait déjà utilisé l'expression de puissance moyenne typique, soit se replier sur ses frontières en entretenant... Attends, en conclusion, c'est que la France a deux options, soit se replier sur ses frontières en entretenant un nationalisme fait de peur et d'angoisse, soit jouer la carte européenne, notre seule manière d'exister sur la scène internationale. Voilà, Pompidou avait tout bon. L'Europe ne peut pas être qu'économique, mais aussi elle doit être politique et militaire. Importance de l'axe franco-allemand. un axe qui doit être fort. Pour lui, l'homme européen ne se satisfait pas d'un surplus de biens matériels et de la hausse du consumérisme. L'homme européen. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est comme ça. On devient américain, si vous me permettez l'expression. Mais on ne peut plus passer 5 minutes... Enfin, j'exagère, mais on peut passer 5 minutes sans penser à aller faire des courses. Quand on s'ennuie, il faut acheter. Et là, il y a les... C'est tragique ce qui se passe en France. Il n'y a que les... Mais maintenant, acheter... on n'a pas besoin d'acheter... Il y a des magasins où c'est pas cher, là. Oui, mais si t'as... je sais plus comment ça s'appelle, les trucs où c'est pas cher, quoi. Vraiment pas cher, mais c'est où c'est vraiment, vraiment mauvaise qualité et pas bon, quoi. Parce que déjà, on a plus de fric, tout simplement aussi. Hein. C'est, même si on n'achète pas de trucs qui servent à rien, on a plus de fric. Tout se passait bien et Nixon, afin de restaurer la compétitivité américaine, ce qui crée la condition d'une grave crise monétaire chez ses alliés occidentaux, la vraie rupture, c'est la construction européenne. Pompidou considérait que l'Europe devait avoir sa voie propre et être capable de se dissocier des États-Unis si besoin était. Eh bien, ce serait bien de le faire maintenant. Il considère que la France ne peut avoir de crédibilité sur la scène européenne que si elle est une puissance économique et industrielle. L'URSS et la RFA se développent bien plus qu'avec la France. Attends, il voit que les échanges commerciaux entre l'URSS et la RFA, à Pompidou, il voit ça. Donc là, c'est une leçon très importante aujourd'hui. Pompidou était convaincu que notre pays ne pouvait pas se contenter de grandeur rhétorique, mais qu'il lui fallait avoir une vraie crédibilité en matière économique et financière. La France doit s'imposer avec des mesures concrètes et pas seulement avec des effets d'annonce. Ah oui, c'est clair. Il explique, alors attends, et là Pompidou est, selon vous, le premier grand chef d'État occidental à développer une pensée écologique. On parle bien de l'homme qui avait une véritable cul de la voiture. Alors, c'est Jérémy Gallon qui a écrit un livre sur Pompidou, Georges Pompidou, l'intemporel. C'est lui qui est interviewé, il a écrit tout un bouquin, plus de 300 pages là-dessus. Et ouais, parce qu'en fait, Pompidou, par rapport aux voitures, il arrive en Porsche 356 dans la cour de Matignon. Alors, je sais pas à quoi elle ressemble, cette Porsche, mais ça devait être une belle voiture déjà à l'époque. Il explique ainsi que le luxe, dans 50 ans, ce sera de vivre comme le... Alors ouais, il explique ça, bon, bah, j'aime les belles bagnoles, machin, truc. Mais la culture et son ancrage auvergnat, parce qu'il était auvergnat donc, lui ont fait prendre conscience des limites de la civilisation urbaine. Il explique ainsi que le luxe, dans 50 ans... ce sera de vivre comme le paysan au 19e siècle avec un espace et du bon air. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on voudrait, ce que beaucoup de bobos voudraient, n'est-ce pas? Et comme toujours, mais avec Pompidouche, et Pompidou, Pompadour, ça ressemble, hein, c'est une ville, Pompadour. Avec Pompidou, il y a des mesures concrètes, création du ministère de l'Environnement, défense des parcs nationaux, loi des nuisances sonores, etc., etc. Début d'une prise de conscience écologique. Le rapport Meadows, c'est 1972, Pompidou a été avant-gardiste en essayant de poser les jalons de politique écologique. C'est sur Jet FM 91.2, avec elle. C'est sur Jet FM 91.2.